actuelle aujourd'hui, il sera question d'un avocat. Un laïc, un homme marié qui est bien heureux. Il était avocat à Naples. Il est mort en 1926. Et c'est un converti. Il a déjà été prêtre spirite. Il a été mêlé à l'ésotérisme, à toutes sortes de choses étranges. Il était même un ennemi de l'Église. Et son nom, c'est le bienheureux Bartolo Longo, ou Bartolomeo, mais c'est réduit à Bartolo Longo. Il a été béatifié il n'y a pas tellement longtemps, le 26 octobre 1980. Alors, on voit finalement béatifié, enfin, à part quelques martyrs et des fondateurs et des fondatrices, et on voit en 1980, enfin, les gens soupirent, un laïc en pantalon, quoi, et puis qui porte un veston et qui est marié en plus de ça, qui a une bonne moustache, il a une barbe blanche, il a une belle tête, d'ailleurs, sur, à la fin de ses jours. Et il a fondé, chose étrange, une basilique mariale extrêmement importante à Pompéi. Vous connaissez Pompéi, le Vésuve et tout ça, là. C'est une des plus fréquentées d'Italie. Il a fondé des œuvres de charité, après sa conversion, évidemment, tout ça. Et il a même fondé une congrégation féminine, comme Jérôme Le Royer de la Dauversière, qui a fondé les Hospitalières de Saint-Joseph, que nous connaissons bien ici, à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Depuis le début de Montréal, il a été un fervent, on appelle ça un garibaldiste, c'est-à-dire un partisan de Garibaldi, cet homme courageux que l'Église n'a pas toujours aimé, et qui a unifié l'Italie aux dépens des États pontificaux qui étaient énormes. Et qui était donc, dans un certain sens, un ennemi de l'Église, et en même temps, il a été, comme je vous ai dit, un prêtre spirite dans le spiritisme, là, ces mouvements spirituels étranges où l'on fait tourner les tables et tout ça. Là. Et sans l'avoir cherché, il est donc devenu, après sa conversion, l'apôtre de la Sainte Vierge, de Notre-Dame du Rosaire. Je le fais, cette émission, en ce mois de Notre-Dame du Rosaire, le mois d'octobre. Les épreuves ne lui ont pas manqué dans sa vie, ni par les ennemis de Dieu, puis ni même par l'Église elle-même. Il a eu des problèmes, pas l'Église en tant que telle, mais disons des laïcs ou des prêtres. Il a été aidé par les évêques et par les papes. C'est un homme de notre siècle, il est mort en 1926. Il a donc connu ce qu'on pourrait appeler le premier quart de notre siècle. Et il nous offre à nous, les laïcs, aujourd'hui, un exemple. Un exemple de ce que nous pouvons faire et endurer pour mieux faire connaître Dieu, mieux faire connaître Jésus-Christ et son Évangile, mieux faire connaître aussi sa très sainte mère, Marie. Faire étendre, quoi, le royaume de Dieu. Le 7 octobre, c'est l'anniversaire aujourd'hui, 1871, au jour même du troisième centenaire de la victoire de Lépante, hein, eh bien, Bartolo Longo fait profession dans le tiers-ordre dominicain sous le nom de Fratel Rosario, le frère Rosaire. C'est un avocat italien de 31 ans. Un long cheminement spirituel a amené, on peut dire, maître Bartolo Longo à se lier ainsi à Dieu d'une façon plus démonstrative et plus intérieure. Et sans qu'il s'en doute, pourtant, cet enrôlement dans l'ordre franciscain, comme laïc, là, va le conduire plus loin encore, jusqu'à devenir un apôtre extraordinaire de Marie et le fondateur de cette nouvelle Pompéi, une vaste cité aujourd'hui, à côté des ruines de l'ancienne. Il est né à Latiano, c'est une petite ville de 15 000 âmes à 22 kilomètres de Brindisi, dans les Pouilles, le 11 février 1841. Bartolo reçoit, deux jours plus tard, à son baptême, le prénom de son père Barthélemy, c'est-à-dire Bartolomeo, Et Bartolo, c'est le diminutif de Bartolomeo. Et son père, c'est un médecin. Il gère surtout un riche patrimoine terrien. C'est une famille à l'aise. Il y a trois enfants chez les Longo. Il y a Rosa, l'aînée, Bartolo, le deuxième, et Alceste. Curieux prénom, hein, Alceste, quand on connaît un peu le théâtre. Eh bien, il sera aussi médecin, lui, le plus jeune. À 10 ans, notre bienheureux perd son père. C'est un coup douloureux, hein? Ça modère un peu sa fougue naturelle. À 16 ans, il obtient un diplôme qui lui permet soit l'enseignement, déjà à 16 ans, soit d'entrer dans une faculté à l'université, puis choisit de devenir avocat. Alors, sa mère s'est remariée, et son beau-père, qui est un avocat, lui, Giovanni Ciampi, son nouveau père, l'envoie chez un avocat de Lecce. Et à Lecce, dans cette ville, il prend part à des réunions politiques en faveur de l'unité italienne dont je vous ai parlé, sous la direction de Garibaldi, à tel point que la police des Bourbons s'en émeut un peu, et aussi un juge qui est ami de son beau-père, monsieur le maître Ciampi, conseille à maître Ciampi de rappeler son beau-fils à Laziano, la ville natale. Mais avant de regagner sa ville natale, donc, Bartolo, il arrive quelque chose. Il assiste à une réunion spirite, où une jeune fille en état d'hypnose donne des détails sur la conquête de la Sicile. Et cette première expérience de spiritisme le fascine profondément. De toute façon, il va s'inscrire à l'université de Naples. Et là, à Naples, les facultés sont devenues, un peu comme ici, le fief de la franc-maçonnerie. Nous, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est plus ou moins l'athéisme. Et les chaires, ou si vous voulez, les chaires d'enseignement, là, sont occupés par des mangeurs de curés, comme il dit lui-même, et des apostats. C'est ce qu'il dit plus tard. La science apparaît comme le moyen même d'abattre l'Église. Hein? Avec la science, on prouvera bien que l'Église est dans l'erreur, quoi. Et le patriotisme est appelé à supplanter la croyance religieuse, quoi. Ça arrive, hein, dans certains pays. Bartolo va définir cette époque le temps de la foi morte et du triomphe de l'impiété. Il va dire encore « pauvre jeunesse, pauvre université de Naples ». En cette chaire de Saint Thomas d'Aquin, où depuis 700 ans enseignait un dominicain, siégeaient des prêtres renégats. La maxime fondamentale de la législation était celle-ci, « l'État doit être athée, la loi athée ». Ce qui fait qu'ici, on peut avorter, n'est-ce pas, jusqu'à la naissance. Ça a l'air d'un pays athée, le Canada. Le plus grand homme précurseur des libertés, dit-il, des libertés modernes est Luther, pour les gens de Naples. Les pires ennemis de la science, de la patrie, de la liberté, ce sont les papes. C'est ce que pensent les gens. Et puis, les pauvres jeunes, ajoute-t-il, étaient contraints aux examens pour obtenir leur diplôme de passer pour rationalistes ou athées. Ça ressemble vraiment à ce qui se passe, hein, aujourd'hui. Alors, tête baissée, Bartolo se met à l'étude de l'idéalisme à la mode, en philosophie, en suivant les cours d'un ex-prêtre. Son amour, pourtant, de la transcendance, ça l'amène à conserver quand même, au fond de son cœur, la foi en l'existence de Dieu. Mais il s'éloigne des sacrements, il ne prie plus, quoi. Il tient des conférences anticléricales, même. Et il organise des manifestations populaires contre la religion. Au café, ça lui arrive de payer un verre de liqueur à celui qui insulte un prêtre qui passe devant la porte pour l'encourager. Et le 12 décembre 1864, Bartolo Longo obtient le titre de docteur inutroque, comme on dit. Mais toujours la même question le harcèle. Le Christ est-il Dieu? Oui ou non? Et en son cœur, la réponse reste la même. Oui, oui, il l'est pour moi. Et c'est alors qu'un confident de ses tourments spirituels l'invite. Il dit, viens avec moi. Je te conduirai à un endroit où tu vas résoudre tous tes doutes. Le 29 mai 1864, c'est avant qu'il obtienne son doctorat, donc, Notre avocat assiste à une séance où on l'initie au secret du magnétisme et du spiritisme. Alors, les tables tournantes, les mouvements de siège, les réponses et les divinations des voyants. Mais tout cela lui semble des jeux innocents. Dans une autre séance, l'initié demande « Jésus-Christ est-il Dieu ?»« Oui, lui est-il répondu. » « Les préceptes du décalogue sont-ils vrais ?» Et le médium d'affirmer « Oui, sauf le sixième. » Vous connaissez le sixième commandement, hein? Alors, peu à peu, il dégringole vers l'apostasie. Et pour lui, l'écroulement du sixième commandement lui ouvre la voie de l'immoralité. Et en peu de mois, Bartolo devient médium de premier ordre et même il est ordonné prêtre spirite. Il est alors soumis au sommeil magnétique et se trouve soudain immergé dans des sarabandes infernales. Les objets de la salle nagent dans l'air, dit-il, comme des feuilles dans un ouragan. Il perçoit des visions de dragons, des images de femmes démoniaques, des sifflements et des hurlements de bêtes étranges. Et affaibli par les jeûnes, le système nerveux du jeune Longo ne peut y résister, puis il tombe à terre sans connaissance, et lorsqu'il revient à lui, sa santé est irréparablement ruinée, et quand plus tard il va décrire le phénomène dont il a été témoin, il va déclarer « Je crois bien que le démon ne m'a pas touché l'âme, il ne pouvait le faire, mais il a atteint mon corps. » Et cette consécration spirite n'était qu'une singerie. Réelle, en revanche, était la fièvre qui l'a miné plusieurs mois. Il dit « L'esprit mauvais qui m'assistait voulait s'emparer de mon âme, former à la piété depuis mes premières années, et me demander l'adoration et l'obéissance aveugle. Il se faisait passer pour l'archange Michel. Il m'imposait la récitation des psaumes et des jeûnes rigoureux. Et lorsqu'on prétend devant lui que le spiritisme n'est qu'un fatras de supercherie, il s'irrite, il se fâche, car il est convaincu de la présence et de l'action du démon. Il dit « Je l'ai expérimenté ». Et c'est par un miracle de la très sainte Vierge que j'en ai été délivré. Maître Bartolo Longo continue à se jeter tête baissée dans toutes sortes d'aberrations du spiritisme, puis il étudie ça. Il a un désir immodéré de percer le mystère d'un autre monde. Il a la prétention de trouver une preuve sensible du surnaturel. Et pour l'arracher à son erreur et pour le ramener à lui, en ce moment très difficile dans sa vie, eh bien Dieu va se servir d'un ami, de ce jeune avocat, le professeur Vincenzo Pepe, son compatriote. C'est un humaniste qui est passionné de Dante et... C'est un ascète aussi, c'est un homme discipliné. Et Bartolo Longo se rend donc à Maddaloni, où enseigne Vincenzo Pepe, qui l'invite à déjeuner. Mais il refuse de prendre la nourriture parce qu'il avoue qu'il suit les conseils de son directeur spirit selon les conseils de l'archange Saint-Michel. Dans quelle aberration on peut tomber, hein? Alors il déclare... De même qu'il veut consacrer toutes ses forces à répandre le spiritisme en Italie et même à y convertir les prêtres et les religieux. Alors son ami, qui a une tête ses épaules, lui dit « Tu veux donc mourir dans une maison de fous et être damné ensuite ?» Et après une longue discussion, bien, Bartolo Longo est plutôt abattu. Puis il finit par promettre à son ami d'essayer de se confesser. Hop, ça commence. La nuit, il entrevoit sa mère, elle tourne autour de son lit, dit-il, et le prie de revenir à la vraie foi. Aussi, le lendemain, il va trouver à l'église du Rosaire, à Porta Medina, le père Radente, c'est un prêtre qui va avoir une grande influence sur lui, dont son ami Vincenzo Pepe lui a donné l'adresse. C'est un dominicain, il confesse. Ce qui ne l'empêche pas de dévisager cet individu bizarre qui est devenu Bartolo Longo. Il a la face ornée d'une barbe de mousquetaire. Le dominicain a un peu peur. Et avant de l'entendre en confession, il prévient le sacristain. Il dit « Ce jeune homme ne me dit rien qui vaille. Mettez-vous donc discrètement à quelque distance et protégez-moi s'il arrive quelque chose. » Puis, il entend son étrange pénitent, Bartolo Longo. Il l'invite à revenir quelques jours plus tard pour recevoir l'absolution. Et après quoi, le père Adente court chez les tertiaires dominicaines. Il leur demande de prier pour une conversion exceptionnelle. Imaginez un prêtre spirite qui veut se convertir. Alors lui-même s'impose un jeûne rigoureux de 3 jours. Bartolo Longo reçoit enfin le pardon de ses fautes. Et un jour, il écrira « En ce jour, qui jamais ne s'effacera de ma mémoire, la mère des pécheurs, Marie, a opéré un grand prodige. Avec un trait de cette magnificence que Dieu seul possède, il choisit le même malheureux à promouvoir sa gloire, à fonder un sanctuaire, comme je vous ai dit au début de l'émission, à Pompéi, où d'autres coupables trouveraient le pardon et la paix, ajoute Bartolo Longo. Alors, il recommence à communier le vendredi 23 juin 1865, il a 24 ans, c'est en la fête du Sacré-Cœur. Mais il s'en tient pas là. Non. Depuis sa conversion, il ne subit plus aucun phénomène paranormal. Il a fait vœu de chasteté qu'il renouvelle d'une fête à l'autre et son dominicain, là, le père Adente, le dirige avec sagesse, beaucoup d'intelligence. Et pour lutter contre son amour-propre, bien, il circule à Naples. Écoutez bien, c'est assez original. Ça rappelle un peu Saint-Joseph-Benoît-Labre. Il circule, lui, cet avocat, à Naples, avec un gros chapelet, il est très connu, au bras. Et pour vaincre sa fierté, ben il quête pour les pauvres à la porte des églises, et même dans les cafés. Surtout dans ceux où, autrefois, il s'est montré comme un mécréant, n'est-ce pas? Il payait des verres à ceux qui insultaient des prêtres qui passaient sur le trottoir. Le soir, les sacristains doivent le prier de sortir au moment où ils vont fermer la porte des églises, parce qu'il prie longtemps. Il fréquente encore l'hôpital des incurables de Naples. Il y accomplit les tâches les plus humbles. Il recueille aussi des confidences des malades. Et à ce moment, il découvre l'importance de la presse catholique. Un homme instruit quand même. Et il veut, par des écrits, réparer le mal qu'il a commis. Il veut promouvoir la connaissance et l'amour de Dieu. Aussi, de décembre 1868 à 71, il étudie la philosophie de saint Thomas d'Aquin, tandis que le père Adente, le dominicain, l'instruit de la théologie du même saint Thomas, ainsi que de la vie mystique des saints. Et ainsi, il s'adonne aux études. Et même si intensément qu'il est sur le point de perdre la vue, mais en 1873, alors qu'il devient tout à fait aveugle, le médecin Galtani l'invite à se recommander à Sainte-Cécile. La prière de Bartolo est exaucée. Et en reconnaissance, il écrit en 3 mois une vie de Sainte-Cécile. Il est également mis en rapport avec une vénérable qui l'aide beaucoup, qui est fondatrice des Anselmes du Sacré-Cœur. Et parmi les amis de cette bienheureuse, il y a la comtesse Mariana Farnararo, une jeune veuve du comte de Fusco. Elle va devenir sa femme plus tard. Alors, il est reçu à sa table au milieu des 5 enfants du défunt comte de Fusco. Ils ont de 8 à 16 ans et Bartolo apprend alors que la veuve a hérité de son mari de terres situées à Pompéi et dont elle ne s'occupe pas. À la fois pour rendre service à son hôtesse et peut-être aussi pour s'éloigner d'elle, parce qu'il veut rester célibataire et chaste, Don Longo s'offre à administrer ses possessions et la comtesse tente de l'en dissuader parce qu'il y a des brigands qui règnent sur ses terres. Mais Bartolo, lui, a pas peur. Il a déjà combattu aux alentours d'Oria, lui. Et en octobre 1872, il part donc pour Torre Annunziata et 2 colons armés l'attendent à la gare. Pourquoi ces fusils? Ben, pour nous défendre contre les malandrins. Il y a donc des voleurs sur la grande route. Puis les carabiniers, eux, qu'est-ce qu'ils font? Alors on dit, il n'y a pas de caserne de carabiniers. et nous devons donc nous défendre nous-mêmes ici. Alors le pays avoisinant les ruines de l'antique ville de Pompéi sont le fief du brigand Pilone. Là végètent des paysans qui, à chaque problème, consultent la sorcière ou la jeteuse de sorts, comme ça se fait ici maintenant à Montréal. Et pour connaître le degré de culture religieuse de ces gens, Maître Bartolo Longo demande un jour à un vieillard « Combien y a-t-il de dieux? » « Ben, quand j'étais petit, j'ai entendu dire qu'il y en avait trois. Aujourd'hui, après tant d'années, je ne sais si l'un d'eux est mort ou s'il s'est marié. » Alors, c'est l'ignorance totale, comme vous voyez. Une fois, se sentant accablé de tristesse et de désespoir, il lève la tête et les mains vers le ciel, puis il dit « S'il est vrai, ô très sainte Vierge, que tu as promis à Saint-Dominique que celui qui propage le rosaire se sauve, je me sauverai, car je ne quitterai pas cette vallée de Pompéi sans avoir propagé ton rosaire. » Il ne reçoit pas de réponse, mais un grand calme envahit son âme. Et là, il voit qu'on enterre les gens comme des bêtes, sans même une prière. Il veut d'abord fonder une confrérie du rosaire, afin d'accompagner les défunts, avec piété, puis de venir en aide à leur âme. Le vieux curé lui dit, c'est très difficile, ces paysans ont perdu la foi en toutes ces choses-là. Alors, dans chaque maison, il fait placer une image de la Vierge, de la Madone, et un chapelet, en demandant de le réciter. Puis il fait redonner un aspect plus décent à l'église, et avec l'autorisation de l'évêque, de Nolle, il organise une mission, qui est donnée du 2 au 13 novembre, une bonne longue mission, comme vous voyez, bonne prédication, une retraite, si vous voulez, et qui est un triomphe, et tous les gens se réconcilient avec Dieu et arrangent les différends qui les opposent, et est alors fondée une confrérie de la Madone du Rosaire, et presque tous demandent à en faire partie. Et pendant ce temps, Maître Bartolo Longo passe par une véritable nuit mystique. Il va se jeter aux pieds d'un prêtre, le père Louis de Casoria. Il lui dit, il me semble que je ne suis que fange. Et l'autre lui dit, le prêtre lui dit, c'est magnifique ça, si tu te sens de la boue, c'est le signe que le Seigneur veut de toi un grand ouvrage. Car lorsque Dieu veut implanter une grande œuvre, il plonge d'abord dans la boue l'âme humaine, pour qu'elle ne connaisse pas l'orgueil et pour qu'elle puisse bâtir sur cette humiliation. Alors Maître Longo demande alors à l'évêque, Monseigneur Formisano, d'élever un autel à la Vierge du Rosaire. Et l'évêque vient à Pompéi le 12 novembre donner la confirmation et déclare « Vous voulez un hôtel? Bien moi je vous propose en revanche de bâtir une église. C'est là, dit l'évêque, doit être édifié le temple de Pompéi. » Et Bartolo pense en lui-même « C'est une farce de Satan que de faire miroiter le meilleur pour empêcher le bien. » Mais quant à la comtesse, celle de Fusco, enthousiasmée par le projet, elle écrit aussitôt à ses amis, puis elle demande au monde d'un sou mensuel pour édifier une église catholique au vrai Dieu sur la terre des idoles, et c'est ce qui va se passer sous la direction de ce bienheureux Bartolo Longo. Aujourd'hui, il est question d'un bienheureux avocat, laïc, marié, et nous en arrivons au moment où son évêque, Monseigneur Formisano, le prévient ainsi que son ami, une comtesse. On vous chassera, on vous calomniera. Si vous êtes disposé à le supporter, vous accomplirez l'œuvre de Dieu. Puis l'évêque ajoute, ne dépensez pas plus que vous n'aurez. Quant aux dimensions de l'Église, pensez au développement qu'elle prendra dans les 20 années à venir. C'est un genre d'évêque, comme on voit, hein, qui prophétise. C'est un évêque qui a vraiment une foi solide, qui comprend les choses. Et le plus urgent est donc pour le bienheureux Bartolo Longo de se procurer un tableau de la Vierge du Rosaire. Il se rend à Naples pour en trouver un, parce que le père Radenti, le dominicain qui le dirige, lui conseille de se faire remettre celui qu'il a acheté à un brocanteur. Un antiquaire qui vend de la brocante, là. Cette croûte, ce tableau épouvantable, enveloppé dans un drap, est ramené à Pompéi par un bonhomme, dans une voiture, une espèce de char de fumier. et elle y arrive le 13 novembre 1875. Notre avocat, qui a 35 ans, la confie à un paysagiste qui travaille dans les Pouilles, son pays d'origine. Et deux mois plus tard, elle semble plutôt présentable. On l'expose dans l'église le 13 février 1876. Or, tout de suite, comme l'a prédit la religieuse en la confiant à Maître Longo, cette Madone du Rosaire opère des prodiges. Le jour même où on la place dans l'église, une fillette est soudain guérie. Une fillette de 12 ans torturée jusqu'alors par des convulsions terribles. Le cardinal de Naples est immédiatement informé du prodige et la comtesse de Fusco le fait savoir à la noblesse napolitaine. Suit une pluie de grâces et aussi d'offrandes de la part de l'aristocratie, au point que l'on appelle l'église des seigneurs, l'église de la paroisse de Pompéi. Paul VI, qui enfant est venu la prier, cette madone, en avril 1907, va vouloir la couronner lui-même. Oui, il veut couronner lui-même un jour ce tableau de la Vierge en la basilique Saint-Pierre au Vatican le 23 avril 1965. Léon XIII a déjà écrit au sujet de cette image. De cette sainte image, Dieu s'est servi pour accorder tant et tant de grâces qui ont ému l'univers. C'est qu'une image, comme une photo de nos parents ou de nos enfants, soulève la mémoire, l'ardeur et souvent la prière. Ce n'est pas de l'idolâtrie, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du fétichisme, ça n'a rien à voir. En 1878, l'avocat Longo publie un opuscule « Histoire, miracle et neuvaine » de la Vierge du Saint-Rosaire de Pompéi. Il a 37 ans. Les ennemis de l'Église commencent à le diffamer. Pour combattre l'ignorance religieuse, un dimanche de 1882, il a plus de 40 ans, Bartolo Longo institue une classe de catéchisme et enseigne aussi à lire et à écrire aux enfants. Car il déclare souvent « Un peuple sans catéchisme est un peuple sans religion ». En 1883, Léon XIII écrit la première de ses 15 encycliques sur le rosaire. Bartolo Longo propage le document pontifical, et en septembre de la même année 1883, le pape Léon XIII accorde une indulgence plénière à ceux qui visiteront le sanctuaire de Pompéi, et il nomme notre avocat commandeur de Saint-Grégoire. Tandis que l'Allemagne fête le 4e centenaire de naissance de Luther et qu'en France le cœur de Voltaire est porté en procession, eh bien notre bienheureux Bartolo Longo, lui, fait commémorer le bicentenaire de la victoire de Vienne contre les musulmans. Les célébrations sont triomphales. Et le 14 octobre, à midi, ce sont 20 000 pèlerins qui pour la première fois récitent la supplique à la reine des victoires. Dans la région, un certain Fabrizio Doria, D'Auria, Doria, criblé de dettes, décide de faire un peu d'argent en publiant un hebdomadaire local intitulé « La cloche du midi ». Il lance alors le rosaire de Marie pour faire un peu plus d'argent, qui se prétend être l'écho fidèle de l'authentique animateur, Longo, du sanctuaire, n'est-ce pas? Et comme il réussit à se procurer la liste des associés du sanctuaire, il induit beaucoup de monde en erreur. Notre bienheureux Longo, avocat, est, en plus de ça, traité de voleur et d'imposteur, de profiteur des gains religieux, qui serait vêtu d'un habit de rosariste, je ne sais trop ce que c'est, alors qu'il n'est qu'un libre penseur travesti. Imaginez les accusations. Alors l'évêque, averti, accepte que Bartolo Longo intente un procès à ce tricheur, M. Doria. Mais il se ravise bientôt. Monseigneur Formisano, demande que la plainte soit retirée. Pour manifester sa totale soumission à son évêque, eh bien, le bienheureux Bartolo Longo obéit. Et de son côté, le dénommé Doria se rétracte de manière satisfaisante. En 1884, c'est le choléra, il y a une épidémie, mais il respecte la région du sanctuaire, un peu comme la guerre a respecté Medjugorje de nos jours. Ouvriers et artistes sont tous préservés de l'épidémie, ainsi que des accidents, et seul le maître stucateur, Accardi, tombe de la corniche au-dessus de laquelle on pose la coupole. Le curé accourt pour lui donner l'absolution. « Il ne peut être mort, s'écrie le prêtre, car il porte la couronne de la Vierge. » Puis il crie « Maître Vincenzo, appelé la Vierge du Rosaire. » « Ma Madone, soupire l'homme qui gît par terre, mia Madonna. » Et cet homme qui semble sortir tout à coup d'un profond sommeil, et en fait, il est sain et sauf. Et durant la seule année 1884, on dénombre plus de 200 faveurs et prodiges obtenus par l'intercession de la Très Sainte Vierge. Le père Adente, ce fameux dominicain, avait déclaré à Bartolo, « Courage, en avant, commencez votre publication. Sainte Catherine de Sienne le veut, dominicaine, laïque. » Le 26 janvier 1884, le bienheureux Bartolo Longo présente le programme d'un nouveau périodique au cardinal de Naples, qui l'approuve. Le 3 février, il est reçu en audience par Léon XIII, qui l'avertit. C'est un journal difficile, il n'en existe pas en Italie, mais seulement en France, comme le pèlerin. Je bénis votre intention et votre entreprise, mais surtout, surtout, n'oubliez pas, vous avez besoin de bons collaborateurs. Alors, le premier numéro paraît en 84. Il contient des articles scientifiques. Et les grâces mentionnées sont passées au crible d'une critique documentée. Le périodique connaît une diffusion prodigieuse, d'abord en Italie, puis dans le monde entier, 100 000 exemplaires, puis ça monte, ça monte. C'est alors que le père Louis de Casoria, dont je vous ai parlé tout à l'heure, lui conseille « Écoutez-moi, maître, avec l'argent que vous dépensez à Naples pour imprimer journaux et livres, vous pourriez faire vivre des enfants pauvres à Pompéi. Alors prenez donc des orphelins, des abandonnés, éduquez-les, et avec eux, imprimez le journal et vos livres. Je vous enverrai d'ailleurs une machine neuve que j'ai à Rome et qui ne sert à rien, ainsi que les caractères. Et alors vous, bien, recherchez et pensez aux enfants, là. » Et en juin 84, la machine fonctionne déjà grâce à 3 garçons intelligents sous la conduite d'un maître. Et bientôt, arrivent d'autres machines modernes et le nombre des apprentis se multiplie. Et là, 2 artisans chevronnés ouvrent également une école de reliure. Et Pompéi s'est transformée. Et le bienheureux Bartolo Longo va écrire plus tard, « On ne voyait plus de polissons et de gamins sales et déguenillés se bagarrer dans les rues. Mais tous ces enfants propres et nets se rassemblaient dans l'atelier, y apprenant un métier avec diligence. » En 1887, donc, il a 46 ans, l'avocat Longo note, de janvier à décembre de l'an passé, 1373 grâces ont été obtenues. Tous ces prodiges, qui n'incluent pas les faveurs spirituelles, possèdent leurs pièces justificatives et le bulletin les relate avec circonspection en respectant scrupuleusement la vérité historique. En ce siècle de négation du surnaturel, le bienheureux Bartolo Longo a le courage, lui, de parler de foi et de miracles. Et c'est pourquoi il est suivi et écouté. En 1884, il crée un asile pour les petits-enfants abandonnés. L'année suivante, c'est pour Maître Longo une année d'épreuve. Le 5 janvier, son ami, le père Adente, meurt. Il est suivi dans la tombe, quelques mois plus tard, par l'autre prêtre, le père Louis de Casoria. Alors il perd ses 2 amis prêtres. Et depuis, là, il y a des calomnies qui s'élèvent contre lui et contre la comtesse de Fusco. Le pape Léon XIII trouve la solution. Il les reçoit puis il leur dit, « Vous êtes libre, maître Bartolo, et vous êtes veuve, dit-il à la comtesse. Alors mariez-vous donc, et personne n'aura plus jasé contre vous. » Le mariage, comme les catholiques aiment donc ça, jaser contre les autres, hein, c'est incroyable. On se détruit. Qu'on se taise donc, mon Dieu. Alors, le mariage n'a lieu que le 1er avril 1885, l'année suivante. C'est pas l'année suivante, quelques mois plus tard, dans la chapelle de l'archevêché de Naples, en présence du cardinal lui-même. Et puis, ça demeure un mariage blanc, comme celui de Jacques Maritain, Reich Maritain, parce que le bienheureux Bartolo Longo tient à son vœu de chasteté. Et pour son épouse, il reste donc Don Bartolo, il l'appelle comme ça, et pour lui, sa femme demeure la comtesse. Ils ne font pas de voyage de noces, mais lui s'en va seul, en Italie centrale et dans le Nord, afin de propager l'œuvre de Pompéi. À Turin, dans le Nord, il rencontre Don Bosco. Il demande à Don Bosco, Saint Jean Bosco, « Quel est votre secret pour conquérir le monde ?» Et Saint Jean Bosco lui dit, « J'envoie mon journal à qui le veut, et aussi à qui n'en veut pas. » Le 8 mai 1886 a lieu la triple fête du couronnement et de l'intronisation de cette sainte image de Notre-Dame du Rosaire, puis de l'inauguration de la nouvelle cité de Pompéi. Le tableau est porté en procession de la chapelle provisoire à l'église. Au moment de l'Angélus, la supplique est récitée par des milliers de voix. Il écrit plus tard, le bienheureux Longo, « Qui aurait pu croire que cette vieille toile, arrivée à Pompéi sur un char de fumier, deviendrait un instrument de salut pour d'innombrables âmes ?» En 1884, 30 belles maisons ont été bâties comme une couronne autour du sanctuaire. 2 ans plus tard, on installe le télégraphe, puis c'est un bureau de poste, une gare, une salle pour les malades, une place pour que les gens puissent venir jaser, là, parler sur des bancs. Et puis, il y a une autre salle pour les expositions des travaux des enfants qu'on a accueillis. Il y a un petit hôpital, un observatoire météorologique, il y a un autre de géodynamique. Et ainsi, dans une région désolée, écrit-il, et à demi-barbare, on a réussi à créer un mouvement de vie, un désir de bien-être et de progrès intellectuel, une conscience de dignité humaine. On peut alors parler de miracle. Et voilà, c'est le témoignage, ça, du publiciste Federico Verdinoi, celui-là même qui, autrefois, a initié Bartolo au spiritisme. En 1887, il crée, c'est notre Bartolo Longo, un orphelinat féminin qui est vite rempli. 6 ans plus tard, on comptait 135 fillettes là-dedans. Elles chantent admirablement des cantiques à la Vierge. Mais surtout, on les instruit et on les prépare à leur vie de femme. La gymnastique elle-même entre dans leur éducation et pour mieux faire, maître Bartolo Longo fait ériger canoniquement, le 25 août 1897, cette fameuse congrégation régulière des Filles du Rosaire, c'est là qu'il fonde sa communauté religieuse comme Jérôme le Royer de la Dauversière. Alors ces sœurs-là suivent la règle du tiers-ordre de la pénitence de Saint-Dominique. Il devient donc fondateur. L'année suivante, on pose la première pierre d'un hospice pour les fils des gens de prison. Il y a un premier groupe de 15 garçons qui est accueilli. En 98, il y a 100 ans, on en compte une centaine, et maître Bartolo Longo aurait voulu confier leur éducateur aux Salésiens, mais finalement, il les confie aux frères des écoles chrétiennes, que je salue, je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Et alors, en mai 1893, a lieu la première fête de la nouvelle maison, et un autre futur bienheureux y prend la parole, le professeur laïque Joseph Toniolo. Et c'est par cette institution que sont en somme réhabilités ceux qui pâtissent des fraudes de leurs parents, ou s'ils se voient alors réfuter les théories là qu'on affirmait dans ce temps-là, les théories de Lombroso. On disait que c'était un dogme, il y avait une prédestination organique, génétique à la délinquance. La délinquance dépend donc, on voit bien, non pas de la faute de la forme du crâne ou du visage, mais avant tout du rejet par la société d'enfants innocents, la société qui ne sait pas aimer ses enfants. En octobre 1891, un collaborateur de Bartolo Longo, qui l'aide pour sa revue, et qui s'appelle l'abbé Romanelli, fait paraître un ouvrage intitulé « Bartolo Longo, sa vie et son apostolat ». Il y a des faits exacts qui sont noyés dans un véritable roman historique. Le bienheureux Bartolo Longo refuse que le livre soit diffusé. Alors l'auteur, l'abbé Romanelli, est mécontent. Il se venge. il crée une revue, Le Messager de Pompéi, où maître Bartolo Longo et son épouse, la comtesse, sont abondamment diffamés. L'affaire est portée même jusqu'à Rome. L'abbé Romanelli, déclaré suspect, n'a plus le droit de dire la messe ou... Il est envoyé en Amérique. Quant à maître Longo, il n'a ouvert la bouche que pour dire « prions, oui, prions pour lui ». Malade, ce prêtre calomniateur revient en Italie et un jour il rencontre notre avocat dans une rue de Naples. Le malheureux se jette à ses pieds en implorant son pardon. Bartolo Longo le relève et lui dit « Mais je vous ai déjà pardonné, mon père ». Puis il l'embrasse et se propose de l'aider en tout. Le pardon est la solution dans l'Église, à l'égard de tous ceux qui nous cherchent à nous blesser, à nous diminuer, ou presque à nous assassiner moralement, par leurs bobards. Ça existe un peu partout, c'est triste. En 1921, il n'est plus jeune, et il a 80 ans. Le bienheureux Bartolo Longo veut encore entreprendre la dernière œuvre qui lui tient à cœur, une maison pour les fillettes des prisonniers, de ceux qui sont incarcérés. Le pape Benoît XV donne son approbation et sa bénédiction, que le pape Pie XI renouvelle par la suite, et le nouvel édifice est inauguré en 1926, 15 jours après la mort de notre bienheureux avocat. Le 9 février 1924, la comtesse de Fusco meurt. Sa compagne, son ardente collaboratrice, est disparue. Et notre saint avocat ressent douloureusement cette séparation, même si c'était un mariage absolument dépourvu de toute relation sexuelle. C'est un mariage, je vous le rappelle, comme celui de quelques rares personnes comme Jacques Maritain et Raïssa Maritain. Le 4 octobre 1925, la cérémonie du cinquantenaire a réuni à Pompéi 50 000 fidèles et derrière le cardinal légat 24 évêques. La Vierge est, comme on le fait souvent là-bas et on le faisait ici, est à nouveau couronnée, puis portée en procession sur un tapis de roses. Maître Bartolo Longo a en effet invité tous les pèlerins à apporter des fleurs à la Madone. Mais à cause de son état de santé, c'est du balcon de sa petite villa qu'il assiste à la cérémonie. Il est pâle, oui, il est pâle. Il est émacié, il est recueilli. Il passe en prière ses derniers jours sur terre. Il est atteint d'une double pneumonie. Il s'entretient longuement avec le docteur Moscati. Ça vous dit quelque chose, le docteur Moscati, qui a été béatifié, un médecin béatifié, par Paul VI, il y a plus de 20 ans, en 1975. Le 4 octobre 1926, le bienheureux Bartolo Longo reçoit l'Eucharistie, qu'on appelle le viatique, ce qui va servir au grand voyage, au passage. Il sera accompagné par Jésus-Christ. Il reçoit ce qu'on appelait l'extrême-onction, le sacrement que l'on appelle des malades aujourd'hui, avec une grande ferveur. Le 5 octobre, il peut encore communier à 4 heures du matin. Et quelques heures plus tard, à peine, il meurt. Il expire. Ses dernières paroles sont « Mon seul désir » est de voir Marie qui m'a sauvé et me sauvera des griffes de Satan à 86 ans. Il a 86 ans. Ses funérailles, le 7 octobre, à la fête même du rosaire, sont une apothéose. Ses restes sont disposés, ou plutôt déposés, dans la crypte du sanctuaire sous l'autel. Après être revenu à Dieu, le bienheureux Bartolo Longo a manifesté ainsi tout au long de sa vie une foi ferme et audacieuse, et dans une absolue fidélité à la volonté de Dieu manifestée par ses supérieurs.
surtout l'évêque. Il a été aidé, d'ailleurs, par toute une quantité d'autres serviteurs de Dieu avec qui il a été en relation étroite, hein, je vous ai mentionné quelques bienheureux. On en rencontre à chaque pas de sa vie. Il puisait sa force, oubliez-le pas, dans une prière incessante, dans la communion quotidienne, et aussi dans son amour profond pour le rosaire. C'est un serviteur, comme on dit en Italie, de la Madone. Il a combattu sans cesse pour sa gloire, avec enthousiasme, et non seulement il professait une chasteté parfaite, sans tache, mais il recherchait encore la netteté de l'âme. Il se confessait deux fois par semaine. C'est un organisateur né. C'est pas borné à bâtir un sanctuaire somptueux. Il enrichit d'œuvres de charité pour les plus déshérités. C'est ça, les plus belles œuvres. Les œuvres de charité. C'est un écrivain qui avait un style limpide. Il a compris l'importance des livres et des revues pour l'instruction des fidèles. Et au creux des épreuves, le Seigneur l'a purifié. Et il en a fait un évangélisateur efficace. Mais par-dessus tout, il a apporté son œuvre entière aux pieds de la Vierge Marie. Finalement, c'est par elle qu'il aboutit à la sainteté. Il disait dans sa langue italienne, n'est-ce pas, la Madonna, « A tout fait, moi je ne suis qu'un pauvre pécheur, un instrument inutile, je n'ai rien fait. » Et c'est sans doute pour n'avoir rien accompli que pour Marie, et à travers elle, qu'il est aujourd'hui une gloire pour notre Église catholique et pour l'ensemble de tous les chrétiens et de l'humanité entière. Et un modèle. Oui, il est un modèle pour nous, chrétiens, particulièrement pour nous, catholiques. C'est un modèle d'esprit de prière, de culture chrétienne et d'apostolat auprès des plus pauvres et des plus délaissés, avec une confiance qui lui fait accomplir des choses extraordinaires, immenses et absolument bouleversantes. Ô Vierge Marie, toi qui as cru à l'accomplissement de la parole de Dieu, toi qui as été la première à suivre Jésus pas à pas, regarde-nous avec amour. Nous qui sommes les frères et les sœurs de ton Fils.